Information du monde réel. www.radiomondoreal.fm.
On m'a demandé de parler des jeunes et de la marche mondiale des femmes d'un point de vue global et mondial. Et en fait, c'est vraiment difficile, car on a encore très peu travaillé entre jeunes de différents pays et régions du monde. Et donc, c'est surtout à partir de l'expérience européenne que je vais parler. En Europe, en effet, on a depuis 3 ans une nouvelle dynamique entre jeunes femmes de la marche, avec notamment l'organisation de campements de jeunes féministes chaque année depuis 3 ans. Je vais donc parler de la situation des jeunes femmes en Europe, concrète, nos réalités matérielles, pour réfléchir aussi aux manières nouvelles que nous trouvons pour nous organiser et tenter d'élargir le mouvement et les liens entre jeunes féministes de différents pays. Alors en Europe, la société est très différente de au Brésil. C'est très impressionnant pour moi de voir cette force de notre mouvement ici et de voir tant de jeunes femmes actives, fortes, en pleine démonstration de cette force collective des femmes qui s'organisent. En Europe, d'une part, nous n'avons pas un mouvement aussi massif et jeune, et globalement, les sociétés sont beaucoup plus âgées. Ce qui fait que d'une part, les jeunes sont moins nombreuses parmi les femmes en général, et les femmes militantes aussi, et d'autre part, on est jeune bien plus tard en Europe qu'ici. Alors hier, j'ai rencontré une jeune femme, une jeune brésilienne de Bahia, et elle s'étonnait que je sois active dans un groupe de jeunes, alors elle m'a demandé quel âge j'avais. Alors oui, j'ai 31 ans, mais en Europe, je suis jeune, et ma vie matérielle et concrète est celle d'une jeune femme. Et dans le milieu militant, dans les organisations de femmes, je suis considérée comme une jeune militante. Bon, je vous rassure quand même, en Europe, dans nos dynamiques, il y a aussi des femmes bien plus jeunes que moi. Alors en Europe, il y a donc peu de jeunes dans la population en général, et ce que vivent les jeunes femmes est quand même assez particulier, et c'est à comprendre dans le contexte d'évolution de la situation en Europe, les grandes transformations économiques, idéologiques, politiques que nous vivons depuis quelques années. La réalité qu'on vit en Europe, c'est une attaque des marchés financiers, du capitalisme néolibéral, c'est une régression idéologique et un repli vers des valeurs traditionnelles. C'est une attaque des pratiques démocratiques où les peuples ont leur mot à dire sur l'organisation sociale et les décisions politiques. En Europe, nous vivons une crise du modèle de social-démocratie qui, même s'il n'était pas parfait, garantissait un minimum de solidarité entre générations, entre classes sociales, entre personnes de nationalité du pays et de personnes étrangères. Et cette solidarité, elle passait par des impôts relativement élevés, un système de retraite et de chômage, des services publics, une éducation gratuite ou à bas coût, un système de santé publique qui fonctionnait bien, des transports publics, etc. etc. Ce modèle-là, il est en train de se finir, et les attaques néolibérales contre l'Europe conduisent à des politiques d'austérité, une privatisation de nos biens communs, essentiellement nos services publics, la destruction de nos droits sociaux et l'explosion des inégalités. Je ne vais pas parler longtemps de la politique de destruction de l'austérité en Europe, d'abord parce qu'on m'a demandé de parler des jeunes, et aussi parce que je pense que ces politiques néolibérales que nous, on découvre en Europe, en réalité, malheureusement, vous les connaissez bien, tant il est vrai qu'elles ont été mises en œuvre depuis longtemps en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Je dois quand même préciser que la réalité dont je parle n'est pas vraiment celle de l'Europe en entier. Elle concerne plutôt l'Europe de l'Ouest. Dans toute l'Europe de l'Est, qui vivait sous des régimes communistes jusqu'à il y a une vingtaine d'années, il n'y a jamais eu cette social-démocratie. Les droits sociaux existaient sous une autre forme, et lors de la chute du bloc soviétique et des régimes communistes en Europe, le capitalisme est arrivé sous un enrobage de liberté qu'on a promis au peuple, et un capitalisme sauvage a agi dans ces zones depuis ces temps-là. La division culturelle et politique et sociale entre l'Europe de l'Ouest, mais qui n'est pas vraiment seulement géographique, puisque ça inclut aussi la Grèce, la Turquie, d'autres pays, et l'Europe de l'Est, anciennement communiste, me semble un des enjeux importants qui doivent faire partie de nos réflexions sur nos modes de mobilisation en Europe. Ces différences sont aussi visibles dans la structuration de nos mouvements sociaux, avec une existence assez faible en Europe de l'Est, où les jeunes femmes se retrouvent à initier des nouvelles luttes sans pouvoir s'appuyer sur des mouvements sociaux organisés ou sur des organisations de femmes, alors qu'en Europe de l'Ouest, on a une diversité d'organisations, de syndicats, de partis politiques de gauche qui existent. Ces organisations, y compris du mouvement des femmes, sont cependant dominées par des activistes de la génération des années 70, pour une partie aujourd'hui à la retraite, mais encore très active et portant la mémoire des luttes depuis 40 ans. En tant que jeune femme, à la fois nous bénéficions de ce savoir, des analyses produites, et que de nombreuses femmes jeunes et moins jeunes travaillent à garder en mémoire des archives, par le biais d'archives féministes et lesbiennes, mais aussi des tas de pratiques concrètes de lutte, des structures existantes, des organisations et toute une culture politique, d'alliance notamment. En même temps, en tant que jeune féministe, il faut trouver sa place dans les mouvements et les enjeux de pouvoir se font souvent sentir. La confiance n'est pas toujours au rendez-vous entre les générations. Je vais revenir sur la situation concrète des jeunes femmes en Europe, car je pense que c'est ça qui peut expliquer à la fois les raisons et la manière que nous avons de nous organiser, à la fois en continuité et en rupture avec les générations précédentes. Nous sommes une génération, la première sans doute, qui sait qu'elle vivra moins bien que ses parents. Nous sommes dans une situation où nous perdons des droits et des opportunités pour construire nos vies de façon autonome en tant que femmes. Quelques exemples. L'accès à la diversité ou à la formation est rendu plus difficile avec la dégradation économique. Par exemple, il faut de plus en plus recourir à des prêts étudiants qu'il faut ensuite pouvoir rembourser, sans pouvoir accéder facilement à un travail et à un revenu. À un moment donné, les classes les plus populaires pouvaient accéder à l'université. Et avoir une sorte d'ascension sociale comme ça, c'est de moins en moins le cas. L'accès au logement est aussi très difficile, car très cher dans tous les pays en Europe. Et de nombreuses jeunes femmes doivent rester chez leurs parents jusqu'à 25, 30, 35 ans, ou alors dépendre directement matériellement d'un homme. L'accès au travail est très difficile pour les jeunes femmes, avec une augmentation de l'exploitation. Les situations de sous-travail, des stages, des bénévolats, des volontariats, étant la quasi unique opportunité pour les plus jeunes d'acquérir un revenu, via un chômage de masse impliquant une multiplication des situations de harcèlement sexuel et moral, un encouragement à des conduites prostitutionnelles dans ou hors l'industrie du sexe proprement dite. Par exemple, les jeunes femmes doivent accepter des emplois où leurs corps sont sexualisés. C'est des emplois de vendeuses dans les supermarchés ou dans des magasins, ou des hôtesses, où on le demande, des décolletés plus décolletés, des jupes plus courtes. Énormément de femmes, dans le contexte de dégradation économique de jeunes femmes, doivent migrer et doivent partir de leur pays pour aller trouver un travail dans un autre pays. Il y a bien sûr une différence entre les jeunes femmes qui migrent entre pays d'Europe et qui accèdent à un certain nombre de droits, y compris des droits sociaux, et de nombreuses jeunes femmes qui viennent aussi d'en dehors de l'Europe, qui se retrouvent dans des situations avec les politiques nationalistes et racistes très difficiles, parfois sans avoir de papier, parfois sans avoir droit à des asiles politiques qui devraient leur être accordés, et qui vivent dans des conditions pires et qui s'aggravent. En tant que jeune femme, nous voyons aussi des droits fondamentaux acquis par nos aînés être remis en cause. Et c'est le cas du droit à l'avortement. L'histoire de l'Europe est vraiment assez intéressante et chaotique pour l'acquisition de ce droit, avec des grandes différences d'un pays à l'autre. Mais nous savons, parce qu'on a fait dans le réseau de jeunes féministes d'Europe un travail spécifique là-dessus, que les attaques contre le droit formel dans la loi à l'avortement, comme l'accès réel aux avortements, sont attaqués dans quasiment tous les pays en Europe. Ce sont des attaques qui sont multiples et qui sont pas données dans une même direction. Il y a des arguments différents, des arguments économiques, ça coûte trop cher de rembourser l'avortement. Ou alors des arguments nationalistes, il faut préserver la nation et le groupe ethnique majoritaire dans la nation. Ou alors des arguments religieux, bien sûr, alors on tuerait des bébés, etc. Et ces diverses argumentations vont vers le même chemin qui conduit à empêcher de plus en plus de femmes, ou les femmes les plus pauvres, ou les femmes les plus jeunes, ou les moins informées, les femmes rurales, à accéder à des avortements. Alors dans cette situation, nous luttons pour maintenir nos droits, et non pas pour en conquérir de nouveau. Et ça c'est quand même un changement, et c'est évident que ça change la forme de nos luttes. Donc c'est dans notre expérience concrète de cette réalité qui nous pousse à tenter de nouvelles choses, qu'il s'agisse de pratiques de survie, de solidarité ou de manière de s'organiser entre nous. Je donne un exemple, on n'arrive pas à accéder à des logements. Alors qu'est-ce que font les jeunes et les jeunes femmes? C'est de pratiquer la colocation, partage le même appartement à plusieurs. Et alors du coup, la vie communautaire, qu'on la vive ou qu'on l'imagine, elle prend un autre sens. Et ça, c'est vraiment des expériences qu'on a en tant que jeunes femmes en Europe. Nos situations sont très incertaines et précaires, on ne sait pas si demain on aura un travail, on a du mal à s'engager dans un travail même à moyen terme, un travail militant, et l'engagement militant aussi prend d'autres formes que celles comprises, celles de nos aînés, quand on travaille, quand même temps on étudie, on a un job, deux jobs, trois jobs, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain. En tant que jeune transforme avec ses expériences nouvelles de résistance à l'oppression et à une oppression qui augmente et qui s'amplifie. Nous avons la responsabilité de transmettre nos visions et nos pratiques de lutte à toutes. Il faut travailler ensemble avec la diversité des vécus et des expériences différentes pour découvrir de nouvelles formes de résistance, pour un mouvement des femmes fort et qui réponde aux préoccupations des femmes. Comme les femmes noires, ou les femmes indigènes, ou les lesbiennes ont à certains moments su parler fort dans le mouvement des femmes et ont tant apporté au féminisme, tant dans les théories que dans les pratiques, nous devons parler de nos réalités, de nos analyses et des pratiques qui en découlent. Alors, qu'est-ce que c'est ces pratiques ? Depuis bientôt 3 ans, on a mis en place une dynamique nouvelle, autonome, de jeunes féministes en Europe. Nous avons organisé 3 campements de jeunes féministes, en France en 2011, en Roumanie l'année dernière, et le dernier a eu lieu au Portugal il y a quelques semaines. La possibilité pour nous de se réunir entre jeunes femmes vivant en Europe, c'est ça nous permet de partir de nos propres réalités concrètes pour réfléchir politiquement à nos résistances et solidarités. Au départ de ces projets, il y avait l'idée, dès le départ, il y a 2 ans, que l'Europe subissait des attaques néolibérales à l'échelle continentale et que c'était à l'échelle continentale qu'il fallait réagir à ces attaques. Et on a voulu renforcer la marche contre les femmes en Europe, tant dans chaque coordination nationale que dans la dynamique européenne. Et c'est vrai qu'il y a des nouvelles dynamiques dans un certain nombre de coordinations nationales et dans la coordination européenne grâce à ces groupes. Alors, quels ont été nos principes depuis le départ ? D'abord, l'idée que nous voulions du temps pour nous connaître, pour pouvoir construire des luttes ensemble. On a choisi d'organiser des campements pendant 1 semaine entière, même si c'est plus long, même si c'est plus difficile, parce qu'on a besoin de créer des liens personnels entre nous, parce qu'on a besoin de camper ensemble, de cuisiner ensemble, de profiter de la nature, d'apprendre à la respecter, de vivre d'une façon responsable, écologique, d'acheter la nourriture auprès des producteurs locaux, de garantir de la nourriture végétarienne, végane, et d'être ensemble dans cette vie commune. Un autre principe, c'est la non-mixité. Parce que en Europe, il y a de nombreux mouvements ou organisations féministes qui sont mixtes et qui incluent des hommes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et alors, vivre 1 semaine juste entre femmes, entre jeunes femmes, pour beaucoup d'entre nous, ça a été une découverte et une expérience très forte, très mobilisante, transformatrice. Et enfin, le troisième grand principe, et c'est peut-être le principal, c'est le principe de l'autogestion. Et un fonctionnement non hiérarchique entre nous, avec un partage des responsabilités, une répartition commune de toutes les tâches autant que possible. Et ça consiste par exemple, on fait des assemblées générales tous les soirs, on fait des assemblées générales, une journée d'assemblée générale en début de campement, et là on décide ensemble quel va être le programme de la semaine. Et comme ça, ce sont les personnes elles-mêmes qui décident ensemble de qu'est-ce qu'elles vont faire. On a réuni des jeunes femmes d'une 20aine de pays pendant ces 3 années. Alors on m'a demandé de les lire, alors je vais lire. D'où venaient les jeunes femmes qui sont venues, c'est-à-dire dans quel pays elles vivaient. En France, en Roumanie, au Portugal, en Pologne, de Turquie, de Galice, de Suisse, d'Arménie, du Pays Basque, d'Estonie, de Macédoine, d'Italie, d'Autriche, de Catalogne, de Belgique, de Finlande, d'Allemagne, de Norvège et du Royaume-Uni. Évidemment, il y a aussi parmi ces jeunes femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes migrantes en fait, qui venaient d'autres continents et qui arrivent avec aussi leur expérience de femmes dans d'autres pays. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de Brésiliennes. Et puis, on a eu quelques jeunes femmes, jeunes féministes qui ont pu venir d'autres pays du monde. On a eu une déléguée du Québec au premier campement, et l'année dernière, on a pu financer des délégués du Chili et du Brésil. Marianne, qui est ici, a pu venir partager cette semaine avec nous. De nombreuses jeunes femmes qui sont venues au campement ont dit que ça avait changé de nombreuses choses dans leur vie. Parce que ça avait fait un espèce de déclic dans leur féminisme et aussi dans leur investissement militant, y compris quand elles militent dans des mouvements mixtes. Par exemple, certaines ont souhaité retourner aux études ou changer de travail. Certaines ont quitté leurs copains et se sont sauvées de la violence. Certaines ont assumé de vivre leur lesbianisme. Certaines ont trouvé de nouvelles forces pour initier des luttes locales de première importance. Les jeunes femmes des 3 pays qui ont organisé les campements ont aussi gagné en capacité en renforçant leur leurs collectifs locaux, mais aussi en acquérant une expérience importante en termes de prise de responsabilité, apprendre à faire un budget, planifier la logistique, les visas. Tout ça, ça a accru leur capacité et ce sont des militantes qui ont été formées à ça, qui gardent ça et qui vont pouvoir contribuer localement, internationalement à la construction des luttes de femmes. Alors par contre, ce n'est pas des campements de masse, parce qu'on n'a pas de mouvement de masse. On a été, dans ces trois campements, entre 40 et 70 jeunes féministes, selon les années et les possibilités d'accès à des financements. Mais ce sont des campements qui ont eu des impacts concrets sur nos vies de jeunes femmes et de jeunes féministes. Quelques idées sur ces manières de s'organiser. Je crois qu'il y a une chose qui met dans une tension entre différents modèles. Par exemple, il y a une tension entre eux, ce qui est l'ordre de la lutte politique plus ou moins classique. Et ça, c'est quand on concentre notre énergie à la construction de réseaux formels, à l'écriture de manifestes politiques, à la préparation de manifestations publiques. Et une tension entre ces luttes politiques plus classiques et l'expérimentation pratique d'alternatives. Et ça, c'est quand on concentre notre énergie à essayer des pratiques nouvelles entre nous, l'autogestion, ça prend énormément de temps. Un fonctionnement non hiérarchique, la recherche de l'inclusion de toutes, etc. Et je ne dirais pas que les deux choses sont complètement contradictoires, mais il me semble qu'il y a quand même une tension, peut-être entre le se faire du bien, grandir, gagner des forces, et être efficace, dire au monde, avoir un impact sur le monde. Il faut comprendre que ces espaces de campement sont des espaces de paix relative. Ils sont exceptionnels, tant nous sommes habitués à vivre dans des sociétés au machisme quotidien. Et dans des sociétés où nous ne choisissons pas, très très peu, nous sommes éduqués à obéir. Et quand on expérimente l'autogestion et la non-mixité, ça transforme nos manières de vivre et de nous considérer en tant que personnes dans le monde. L'amour entre nous nous renforce individuellement et collectivement. En Europe, les mouvements sociaux ne sont pas des mouvements de masse. Ils sont souvent divisés ou atomisés et ils n'attirent pas beaucoup des jeunes. En partie sans doute par leur incapacité à les intégrer dans les structures traditionnelles, mais aussi parce qu'on voit le développement d'une idéologie individualiste où chacun pense d'abord à soi et à sa famille et à son clan. Quand on regarde les mouvements sociaux et les mobilisations qui ont marché, qui ont réuni beaucoup de monde ces dernières années en Europe, on pense tout de suite aux indignés, aux indignados, indignadas. C'était surtout à Barcelone et à Madrid, et ça reposait justement sur l'idée d'une implication de personnes. Citoyens et êtres humains, sans le médium des structures traditionnelles militantes. Au-delà des indignés qui ont été nombreux et nombreuses et très visibles, il y a eu d'autres luttes avec des choses comme ça communes, avec des personnes en lutte, méfiantes vis-à-vis des organisations politiques et syndicales, et avec des rassemblements où la vie collective avait une importance, une vraie importance. Ça a été le cas ces dernières années au Portugal, en Roumanie, en Bulgarie, et plus récemment en Turquie, bien sûr, cet été. La difficulté des mouvements sociaux aujourd'hui, c'est de savoir comment réagir à ces attaques multiples et très fortes contre les peuples européens. On a parfois le sentiment qu'ils vont toujours plus vite que nous. Et quand je dis « ils », je pense aux capitalistes, aux politiques et à tous ceux qui œuvrent contre l'autonomie des peuples. Je vous donne un exemple. Quelque chose qui s'est passé ce printemps en Grèce. La Grèce étant le pays ou l'un des pays les plus attaqués par les politiques libérales. Un jour, à 5h de l'après-midi, le Premier ministre grec fait l'annonce qu'à minuit du même jour, la télévision publique grecque cessera d'émettre. Et en effet, à minuit, c'est-à-dire 7 heures plus tard, la télévision publique grecque a cessé d'émettre. Les travailleurs et travailleuses ont tous été licenciés et c'était fini. Et quand on a des attaques, et des attaques comme ça, comment on peut réagir? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, ce genre de pratiques, c'est des pratiques de dictature. Et ça va en cohérence complète avec ce qu'on voit, c'est-à-dire la criminalisation des mouvements sociaux, l'usage d'armes contre les peuples lors des manifestations, ça a été le cas en Turquie cet été, avec l'usage de gaz lacrymogènes qui ont blessé des personnes qui manifestaient, l'arrestation d'activistes, notamment anarchistes, sous des lois antiterroristes, qui leur dénient tous les droits acquis à un avocat, à un coup de fil, etc. Et ces pratiques dictatoriales, elles vont en parallèle avec la montée de l'extrême droite et des groupes fascistes ou néo-nazis qui s'emparent de la rue dans différents pays. En France, dans mon pays, on a vu ça de manière très forte et inattendue, avec une remobilisation de la droite durant cette dernière année. soutenu par des centaines de milliers de personnes qui sont venues manifester contre le mariage homosexuel, alors que la situation qu'on vit est une attaque économique et une dégradation sociale énorme, évidemment. Mais aussi contre le mariage des homosexuels, mais aussi un soutien à la famille traditionnelle et à une vision sexiste de la société. De la même manière, les idées et les pratiques, que ce soit des personnes comme des États ou des gouvernements, racistes, antisémites, xénophobes, sont aussi très inquiétantes. Et sexisme et racisme semblent aller vers une organisation fasciste de la société. L'Europe forteresse et la façon dont sont traitées les familles roms, les personnes roms et les personnes sans papier, de la même manière, ça se durcit et ça va vers un complet déni de tous les droits humains. Et nous qui sommes inquiets de la montée du fascisme, nous savons que nous avons besoin de vos expériences et de votre aide pour comprendre comment y résister stratégiquement. Car si en ce moment, nous essayons de ressortir des expériences historiques, par exemple, on recherche quelles ont été les voix des féministes et des lesbiennes lors de la montée du fascisme dans les années 30 en Europe, on sait aussi que les dictatures de droite que l'Amérique latine a subies dans les années 70 et 80 ressemblent sans doute beaucoup plus à ce dont le modèle néolibéral peut s'accommoder d'un point de vue politique aujourd'hui. Et on a besoin de solidarité car on vit dans un monde globalisé. Et si on a un développement du fascisme en Europe, de la même manière, comme le disait Swad ce matin, si on a des islamistes fondamentalistes qui prennent le pouvoir dans le monde arabe, évidemment que ça aura un impact non pas seulement sur les femmes de ces régions du monde ou sur les peuples de ces régions du monde, mais partout dans le monde, malheureusement. Ça nous concerne tous. Voilà, je vais conclure. La situation n'est pas brillante et on n'est vraiment pas triomphant parce qu'il y a énormément de travail à faire. Mais c'est vrai que les jeunes féministes de la marche en Europe ont réussi à ouvrir une dynamique nouvelle, des possibilités nouvelles, et qui a une vraie motivation. En fait, il y a un vrai enjeu à multiplier les luttes et les espaces qui permettent à des jeunes femmes de devenir féministes, de se libérer de l'aliénation croissante par le biais de pratiques collectives féministes ou lesbiennes. Il y a un enjeu à offrir aux jeunes femmes en Europe des possibilités d'entrer dans la lutte pour changer le monde, mais aussi pour changer leur propre vie. Car l'exploitation des femmes, dans ses formes anciennes et peut-être encore plus nouvelles, s'appuie sur une idéologie misogyne. L'hypersexualisation des femmes et des fillettes, la culture des viols, l'impunité des violences sexuelles. Et face à ça, il faut que nous, féministes, nous proposions une culture de la force, une culture de la solidarité entre femmes, de l'autonomie, du droit à se défendre verbalement et physiquement contre les violences qui nous sont faites. Nous avons besoin de continuité. Nous avons besoin de pratiques, de mettre en œuvre des pratiques, de réinventer des pratiques qui nous viennent du mouvement des femmes et des mouvements lesbiens du passé. Nous avons besoin de reprendre à notre compte des traditions en les appliquant de façon nouvelle pour coïncider avec nos propres vies. Nous avons besoin de connaître l'histoire de nos mouvements. Nous avons besoin de transmission de la mémoire et de l'expérience et de la créativité pour renouveler et redéfinir nos luttes féministes. Au dernier campement de cette année, là au Portugal, il y a 2-3 semaines, le mot qui nous a le plus excité, c'était utopie, utopie féministe. Ah, quand on parlait d'utopie, les yeux des filles se mettaient à briller. Quand on réfléchit à comment on va étendre nos espaces féministes de solidarité, d'apprentissage, de respect et d'amour entre nous. Il y a beaucoup à faire. Nous avons besoin de confiance entre nous, femmes, entre nous féministes. Mais aussi pour nous, en tant que jeunes femmes ou jeunes féministes, nous avons besoin de confiance de la part des féministes plus anciennes. Comme ça a été dit au campement cette année, nous aussi on a le droit de se tromper, même si la situation est difficile. Le mouvement des femmes est passé par des erreurs, a produit énormément. Nous aussi, on a le droit de se tromper. De toute façon, nous avons besoin de créativité et de la créativité de chacune. Et ça suppose de prendre des risques, encore plus maintenant que jamais, et justement alors que c'est moins facile. Ça suppose de sortir parfois de notre confort militant. Cela suppose de pouvoir se servir de ce qui est déjà construit par le mouvement des femmes pour inventer et développer nos luttes. Nous y travaillons. Merci.
Information du monde réel. www.radiomondereal.fm